Espace 2, Annick Chuin.
Bonjour, vous vous intéressez à l'ex-Yougoslavie, mais entre processus de réconciliation et révélation de Carla Ponte dans son livre, la situation ne vous semble pas toujours très claire. Eh bien, c'est le moment de faire connaissance avec notre invité. Bienvenue à vous, bienvenue dans le meilleur des mondes.
Le meilleur des mondes avec le quotidien Le Courrier, lecourrier.ch.
Je reçois Christophe Solliot, enseignant. Une formation littéraire et un master sur Louis-Andreas Salomé, un autre sur Alain Touraine et Herbert Marcuse, une formation de sociothérapeute, des études qui l'ont mené de Genève à Zurich et retour, de l'expérience dans des domaines très larges, un carnet d'adresses enviable. Christophe Solliot, qui est balkaniste et secrétaire général du CEIS, Center for European Integration Strategies, en d'autres termes, un centre pour l'intégration européenne, en particulier de l'espace ex-Yougoslave. Christophe Solliot a écrit de très nombreux articles et pas mal de livres, et il co-organise un colloque qui s'ouvre demain à Vienne et qui a pour thème le processus de réconciliation dans les Balkans et le rapport à l'histoire. J'aimerais, Christophe Solliot, connaître l'origine de votre intérêt qui est profond, qui est durable et qui est actif. Je crois que ça vous définit, profond, durable, actif pour les Balkans et plus exactement pour la région de l'ex-Yougoslavie.
Oui, alors c'est simple et compliqué. Il y a plusieurs entrées. D'un côté, c'est vrai, on peut prendre peut-être ce point-là. Dans les années 80, j'étais fortement engagé au centre de contact suisse immigrée à Genève. Et naturellement, la question de l'intégration, de l'arrivée des Kosovars nous obligeait de nous poser des questions sur bien la situation au Kosovo et donc à l'époque en Yougoslavie. Ça, c'est disons une première problématique. Donc l'intégration des étrangers en Suisse qui a fait que je me suis intéressé à l'espace yougoslave. Avant déjà, je connaissais de par ma formation en philosophie l'espace yougoslave, en particulier une école philosophique qui s'appelle Praxis et qui organisait tous les étés un séminaire à Korčula. C'était l'époque du marxisme à visage humain et les auteurs que je connaissais bien, Erich Fromm, Herbert Marcuse, étaient invités à Korčula. Malheureusement, je n'ai pas saisi l'occasion qui m'a été donnée de m'y rendre une fois. Au milieu des années 80. Par contre, je suis en contact avec une partie de cette école philosophique, donc Praxis, qui regroupait des philosophes marxistes opposés au pouvoir provenant de Belgrade et de Zagreb. Ensuite, j'étais aussi engagé plus sérieusement, ça c'était pas de la philosophie, c'était de la philosophie pratique, disons, dans la promotion des droits de l'homme, et j'étais donc en contact avec des milieux d'opposants en République tchèque, entre autres. Et ça s'est formalisé à la chute du mur de Berlin par la création du HCA, de l'Assemblée européenne des citoyens, qui en quelque sorte fédérait un certain nombre de personnalités, d'acteurs de la société civile qui étaient engagés dans la promotion des droits de l'homme aussi bien à l'Est et l'Ouest. C'est donc le contact Est-Ouest qui me fascinait, qui m'intéressait dans les années 70 et 80. Et puis enfin, vous l'avez mentionné, c'est très paradoxal. Du reste, mes premiers articles sont des articles centrés sur la littérature. Par rapport à l'histoire récente de l'espace yougoslave, c'est par la littérature que je suis entré dans les Balkans, présentant pour la revue Esprit un livre de Slavenka Drakulic, un auteur engagé de Zagreb. Et puis Paul Parin, qui est un Suisse, pour moi c'était très important. J'étais actif au séminaire de psychanalyse de Zurich, dont Paul Parin est une figure de proue. Il vit toujours et en fait, en 1991, il écrit un livre, « Es ist Krieg und wir gehen hin », c'est la guerre et nous y allons. Et c'est un récit qui m'a bouleversé parce qu'en fait, il raconte comment la centrale sanitaire suisse, de laquelle faisait partie Marc Oltramar, avec lequel lequel je suis aussi entré en contact, eh bien, durant la Deuxième Guerre mondiale, s'est rendu auprès des partisans pour les soutenir. En fait, j'ai présenté ce livre dans un article qui a été publié dans une des premières revues qui consacrait un numéro spécial aux guerres ex-yougoslaves. Le livre a été publié en 91 et mon article est sorti début 92. Et en fait, je m'intéressais au rapport entre l'autobiographie et l'histoire. Et il se trouve que le projet autobiographique très intéressant de Paul Parine, avec des œuvres tout à fait intéressantes, qui a délaissé un peu sa pratique psychanalytique pour plus se pencher, se consacrer à l'écriture, eh bien, dans cette écriture même, le présent, à l'époque c'était l'arrivée au pouvoir du Milošević, donc le président de la Serbie, eh bien, perturbe fortement l'écriture et perturbe le narrateur et l'auteur, parce qu'il croit à la télévision, dans les manifestations, dans la foule qui soutient Milošević, il croit reconnaître les patients qu'il a soignés, et il se dit « Bon Dieu, comment est-ce que c'est possible ?»
Christophe Solliot, du coup je fais un petit détour par la littérature allemande que vous enseignez d'ailleurs. Vous êtes bilingue ?
Oui, je suis bilingue, c'est à proprement parler ma langue maternelle, oui.
Vous êtes à moitié allemand ?
Oui, j'ai même
en gros,
et de manière très précise, j'ai même fait la demande, mais après les procédures administratives étaient beaucoup trop longues pour obtenir la nationalité aussi allemande. Puis après, j'ai laissé tomber ça, mais enfin, c'était pas un projet personnel, c'était plutôt l'aspect politique d'avoir un passeport avec les étoiles de l'Union européenne. Voilà.
Et vous êtes contenté du passeport à croix blanche?
Oui, je désespère pas qu'un jour j'y vois des étoiles.
Revenons aux Balkans. Comment, Christophe Solliot, définir votre activité?
Écoutez, d'un côté c'est très simple, c'était la défense, pas seulement des droits de l'homme, c'était aussi la promotion de la société civile, d'un certain nombre d'acteurs qui étaient opposés au nationalisme, et ceci aussi bien au Kosovo qu'en Serbie, qu'en Bosnie-Herzégovine, qu'en Croatie, donc c'est vrai, centré sur l'espace ex-yougoslave, avec peut-être une entrée particulière, c'est que j'ai eu, pour moi c'était un privilège, et c'est ce qui fait que je suis resté attaché à cette région. J'ai eu l'occasion de défendre des initiatives qui ne venaient pas de l'extérieur, mais qui étaient des initiatives locales, donc par des acteurs qui vivaient à Belgrade, à Zagreb, à Tuzla, à Sarajevo. Et c'est quelque chose de complètement différent si l'on va dans un pays pour y développer ses propres projets, ou bien si par les rencontres que l'on a faites, eh bien, tout simplement, on soutient les initiatives locales.
À l'intérieur, donc, oui. Vous avez conduit différents projets, donc locaux, aussi internationaux, puisqu'il y a ce colloque notamment à Vienne, et ce n'est pas le premier colloque que vous organisez. Vous êtes à la fois dans les structures et en dehors des structures, me semble-t-il. Et là aussi, comment vous définiriez votre rôle ?
Oui,
en d'autres termes, qui êtes-vous ?
La question se pose, effectivement, j'aime bien circuler dans différents cercles, dans différents milieux, et c'est vraiment lié à l'expérience que j'ai eue dans les différents réseaux que j'ai fréquentés et que je fréquente dans les Balkans, qui était caractérisée par une imperméabilité, c'est-à-dire que on pouvait trouver dans une même rencontre eh bien des politiques, des décideurs, des journalistes, des citoyens engagés tout simplement, des citoyens lambda, des gens plus profilés, engagés dans la société civile qui étaient connus, mais aussi des artistes, des architectes, et ça m'a vraiment éclaté, quoi. Ça a fait sauter un certain nombre de barrières. Surtout qu'à Genève, j'ai l'impression, c'est peut-être faux, mais c'était mon impression, qu'on vit dans une société très, très structurée, où tout est très codifié. Les passerelles, les relations entre différents milieux, en différents réseaux, en quelque sorte, sont difficiles et très codifiées. Et là, c'est vrai que, pour le dire très simplement, j'ai pris mon pied à fréquenter des gens très, très, très différents. Et je trouve ça d'un enrichissement personnel absolument fantastique. C'est très dynamisant aussi. Et c'est quelque chose que j'essaye de conserver. Parce que si vous prenez que des politiques, je veux dire, à un certain moment, ça ronronne. Je veux dire, si tout à coup, vous introduisez des artistes qui n'en ont rien à faire, je veux dire, de certains codes de conduite ou de bienséance ou de certains types de discours
oui.
ou d'intérêt, voilà, on va approcher les choses de manière totalement différente. J'ai eu une fois une expérience fantastique à... En plus, je suis arrivé en retard et je ne savais pas du tout qui était là. Je ne connaissais pas les personnes. De nom, oui, mais il y avait Salman Rushdie, il y avait Roland Castro, un architecte français très connu, et puis d'autres personnalités plutôt issues de la société civile, des experts des Balkans aussi, que je connaissais. Et je n'ai pas du tout réalisé que je passais une journée avec Salman Rushdie. C'est seulement jour après que quelqu'un a fait son nom. Ah, Salman Rushdie nous quitte. Et puis, je me suis dit, comment c'est pas possible? Et j'ai le souvenir d'une rencontre absolument fantastique, où le discours d'un architecte, le discours d'un écrivain, le discours de politique permettait d'avoir un regard sur la société et sur des enjeux clés. On était à l'époque en pleine guerre en Bosnie. Ça nous donnait une vision complètement différente des choses. Et c'est quelque chose que j'aime bien conserver. Ça me force à penser autrement, à pas toujours rester avec ceux qui penseraient comme moi, par exemple. Et ça, c'est très, très dynamisant. Je peux faire là un lien avec une autre pratique professionnelle qui est celle d'enseignant. Au contact quotidien des adolescents, c'est pas du tout l'âge bête en passant, eh bien je fais la même expérience, donc ça vous donne une pêche d'enfer, voilà.
Et ça oblige à la complexité et peut-être à oublier le dogme.
Mais tout à fait, mais ça tout le monde le comprend, je veux dire, les problèmes sont éminemment complexes et nécessitent du temps pour qu'on puisse y trouver une solution et aussi le travail d'un l'engagement d'un nombre assez conséquent, d'une variété d'acteurs de la société, d'un pays, ou aujourd'hui, pas seulement d'un pays, mais je dirais d'un continent. L'espace européen va de l'avant et naturellement, c'est plus complexe. Mais je pense, je ne suis pas un spécialiste du Moyen-Âge, je pense qu'au Moyen-Âge, c'était tout autant complexe. Donc il y a tout un discours qui se fait sur la complexité. En même temps, tout le monde comprend, c'est très simple, c'est comme ça.
Christophe Solliot, on va profiter de votre présence pour avoir une vue déjà un peu géographique, enfin c'est géopolitique évidemment, des Balkans, vue d'avion par exemple, enfin vue d'hélicoptère, c'est un petit peu plus près. Comment se présentent les Balkans? Puis après on rétrécira à l'ex-Yougoslavie qui vous intéresse particulièrement.
Les Balkans en termes géographiques, eh bien, c'est tout ce qui se trouve, je dirais, entre Vienne et Istanbul. Et je dirais que l'Autriche et la Turquie font partie de cet espace. Alors, c'est très intéressant, il y a une multitude de définitions. On commence par élargir un tout petit peu l'espace yougoslave, donc l'ex-Yougoslavie. Et puis ensuite, on parle en anglais « wider Southeast Europe », donc d'un espace plus large. Et si on regarde maintenant des programmes, c'est très intéressant, de l'Union européenne et du Conseil de l'Europe, qui sont donc centrés sur les Balkans, on voit que les pays qui sont engagés, ce ne sont pas seulement des pays comme, je sais pas, la Roumanie, la Hongrie, mais aussi l'Italie, aussi l'Autriche, donc des pays périphériques qui sont membres de l'Union européenne. Donc les Balkans, ce n'est pas à l'extérieur de l'Europe, ni de l'Union européenne, c'est à l'intérieur, étant entendu qu'un certain nombre de pays, pour le moment, ne sont pas encore formellement membres de l'Union européenne. Au passage, on peut souligner que la Suisse est associée à ces programmes. Interreg, par exemple, et fait partie donc de ces programmes de coopération régionale. Et ça, c'est quelque chose d'assez intéressant. Parce que ça permet un tout petit peu de ramollir en quelque sorte les frontières. Hein. On en a créé dans les Balkans, de nouveaux États en Yougoslavie ont vu le jour. Il s'agit d'avoir des programmes qui relativisent un tout petit peu les frontières et qui invitent les structures aussi locales, hein, les régions, l'équivalent des cantons, les villes, à regarder, à collaborer, à coopérer avec des partenaires de l'autre côté de la frontière.
Mais les Balkans ont quelque chose à voir directement avec l'Europe. Vous avez une vision très large de l'Europe, y compris une Europe qui intégrerait des pays musulmans, par exemple.
Oui, tout à fait. Alors bon, c'est en partie une vision pan-européenne. Hein. C'est l'Europe de l'OSCE, on peut dire. C'est pas l'Europe de l'Union européenne. Ça va plus loin, bien entendu. On peut traduire ça après en termes d'Union européenne, mais je le ferai tout de suite. C'est l'OSCE. C'est aussi le Conseil de l'Europe qui inclut la Russie. Par rapport à l'Union européenne, il y a une définition plus stricte qui, je pense, est légitime. Et pour le reste, eh bien, c'est les programmes de politique de voisinage, ce qu'on appelle en anglais European Neighborhood Policy. C'est l'enjeu, naturellement, de l'espace méditerranéen. Donc, il y a des programmes de partenariat développés avec, ben, prenons des pays sensibles, la Géorgie, l'Ukraine, qui, de mon point de vue, en tout cas dans l'immédiat et pour assez longtemps, ne sont pas appelés à être membres de l'Union européenne, mais font partie de son voisinage immédiat. Et donc, il y a un intérêt stratégique avec la Russie, bien entendu aussi, d'avoir des partenariats fortement développés.
La Turquie ?
Alors effectivement, je crois que j'allais y arriver.
Forcément.
Je crois que si on prend l'espace yougoslave, les Balkans, si on met de côté la Turquie, si on regarde une carte, par exemple, la Grèce fait partie, donc ne serait-ce que pour des raisons pragmatiques de contrôle des frontières, puisque c'est un aspect quand même important en termes de sécurité, au niveau économique aussi, pour faciliter... passage à la douane, et, par exemple, d'un camion qui partirait de Grèce et qui irait dans le nord de la France. Il faut qu'il y ait des procédures facilitées. Et là, il y a un certain nombre de programmes qui existent. Et si tout à coup, il faut traverser les Balkans et qu'un certain nombre de pays ne font pas partie de la même zone, eh bien, c'est un peu problématique. Sur la Turquie, effectivement, c'est un enjeu sensible. Avec un certain nombre d'amis, nous avions organisé une conférence absolument fantastique, je crois que c'était en 1994, à Ankara, et le thème était « Où finit l'Europe ?»« Where does Europe end ?»« Où sont les limites de l'Europe ?» Et d'avoir organisé ça à Ankara, c'était naturellement déjà donné une réponse. Moi, je suis tout à fait convaincu que la Turquie fait partie d'un espace idéal, hein, européen, et que l'Europe, c'est mon expérience dans les Balkans, n'est pas un projet confessionnel. Vient s'enrichir de multiples traditions confessionnelles différentes, protestantes, catholiques, juives, orthodoxes, mais aussi musulmanes. Et ça, c'est absolument important quand on voit en Allemagne, par exemple, une présence quand même significative, je veux dire, de Turcs et de Kurdes et de musulmans. Pour moi, il ne fait pas question de mettre en doute le destin de la Turquie à faire partie de l'Union européenne. Alors, ça peut être un peu bizarre pour un Suisse de se faire l'avocat de la Turquie, mais je crois qu'à terme... pas tant pour des raisons économiques ou géostratégiques, c'est clair que c'est un discours qu'on peut aussi faire, mais pour des raisons culturelles, je crois que c'est capital aussi pour une meilleure intégration des musulmans que nous avons en Suisse, par exemple, mais qui sont aussi présents ailleurs.
On pense aux Français, évidemment.
Évidemment, oui, tout à fait. Mais il y en a aussi en Allemagne, il y en a ailleurs, dans le nord de l'Europe. Je crois que c'est capital qu'au niveau politique, il y ait aussi une intégration qui permettrait moi, j'aime pas le terme, une meilleure gestion, c'est horrible.
Cohabitation, mais de vie ensemble, vivre, oui.
Oui, et de le côté culturel, le côté économique, le côté politique doivent se combiner. Ça permet de mieux gérer l'évolution des problèmes quand il y en a. Voilà.
Christophe Solio, on prend la lunette d'approche alors pour arriver à l'ex-Yougoslavie. Comment actuellement se découpe l'espace ?
Ben, la Yougoslavie n'existe plus, ce qui pose un problème pour ceux qui se définissaient yougoslaves déjà. Et ben, ceux-là, ils n'ont pas de pays. On en parle très peu. Mais c'est vrai que c'est ce qui me frappe. Et de temps en temps, je rencontre des exilés qui sont vraiment exilés. Et alors, ce n'est pas seulement dans des rencontres, dans des conférences, mais ça peut être, ça m'est arrivé une fois dans une station de ski, en faisant du ski, ben voilà, mon pays n'existe plus. C'était la Yougoslavie et la personne n'arrive pas à s'identifier qu'est-ce qui reste, en quelque sorte. On a découpé le gâteau, hein, c'est la Croatie, c'est la Bosnie. C'est la Serbie, etc. On va pas faire la liste ici. Ben voilà, ce sont ces pays dont on peut caractériser l'évolution ces dernières années, avec peut-être une chose nouvelle qui est en train de se développer, la coopération régionale, notamment entre ces pays, mais aussi au-delà de ces pays, qui n'existaient pratiquement pas. Si ce n'est qu'en termes de guerre, on ne peut pas appeler ça une coopération, s'est développé ces dernières années, depuis 1999, à la fin de la guerre au Kosovo, le pacte de stabilité pour l'Europe du Sud-Ouest a été initié par l'Union européenne. Et c'est un programme qui avait une approche globale, justement, de l'espace yougoslave et qui vise à promouvoir les coopérations entre ces pays. Ce qui est très intéressant, et c'est un premier point que l'on peut mettre, au crédit de l'évolution récente, c'est que ce pacte de stabilité s'est transformé cette année-ci en Conseil de coopération régionale qui a son siège à Sarajevo, qui est une structure non plus internationale, exogène, extérieure, mais qui est un programme entièrement géré par des politiques locaux, donc, qui viennent de ces différents pays. C'est-à-dire, on n'a plus des experts internationaux qui viennent dans les Balkans, dans l'espace yougoslave, pour promouvoir la coopération de ces pays, mais des experts qui proviennent de ces mêmes pays. Donc, c'est un grand pas en avant et c'est un signe qui permet d'être confiant dans l'avenir. Il y en a d'autres, hein, mais ça, c'est un premier aspect qui témoigne d'une certaine normalisation. Voilà, qui a pris une bonne dizaine d'années.
Je vais poser la question de manière un peu crue, Christophe Solliot, mais savez-vous toujours qui vous avez en face dans les interlocuteurs? Je pense évidemment aux pays de l'ex-Yougoslavie. Qui est qui, sans parler de qui a fait quoi?
Oui, alors c'est un premier souci. Oui, effectivement, je faisais très attention. Alors, c'était pas tant de savoir si la personne était, par exemple, si on va en Bosnie, si elle était bosno-serbe ou bosno-croate ou bosniaque. C'était plutôt de savoir si elle était d'orientation farouchement nationaliste ou bien quelqu'un de multi-multi, comme on dit, d'ouvert au dialogue, etc. Et là, c'est vrai que j'avais mon réseau, évidemment, j'avais mes trucs aussi, la littérature peut aider ici, très vite, les gens qui se reconnaissaient dans un des grands poètes avant-gardistes, serbes du reste, d'origine serbe, Danilo Kiš, si la personne se reconnaissait en Danilo Kiš, par exemple, je savais, oui, tout à fait, c'était mon mot de passe, ou bien aussi un auteur plus ancien, croate, Miroslav Krezla, qui est un auteur avant-gardiste, mais d'une autre époque, qui a beaucoup influencé les intellectuels critiques, ouverts à la démocratie, etc., contre le régime même titiste. Et ensuite qui était contre les nationalismes dans les différents pays. Voilà, c'était un peu ma boussole pendant très longtemps. Ensuite, c'est vrai, lorsque j'ai organisé en 2005 la conférence internationale pour la Bosnie, du reste à Genève, j'étais amené à rencontrer des personnes, au passé, voire au présent, un peu plus douteux. Et je crois que là, il y a une certaine... maturité politique, personnelle, je ne sais pas. Je crois qu'à un certain moment, il faut avoir le courage de rencontrer ces personnes et de discuter avec elles, car on ne peut pas les écarter. Elles ont encore un certain rôle, ce sont des acteurs. Et là, le dialogue est plus difficile, personnellement parlant. Hein. Mais je ne me suis jamais compromis, même lorsque j'ai organisé la conférence international pour la Bosnie à Genève, ces personnes-là qui étaient présentes, certaines d'entre elles avaient un rôle mineur. Elles n'ont pas été interdites de micro, mais elles étaient par exemple systématiquement pas à la table. Elles pouvaient prendre la parole dans le public comme n'importe qui d'autre, mais elles n'avaient pas un rôle de premier plan.
Conférence ouverte par Micheline Calmiret, faut-il le signaler, Christophe Solio. Votre colloque qui débute à Vienne lundi va porter notamment sur le passé. Cela veut dire qu'il faut d'abord penser la guerre, et est-ce difficile de penser cette guerre encore aujourd'hui ?
Oui, très. Alors, penser la guerre, penser les guerres, il y en a eu plusieurs ces dernières années, mais aussi penser la Deuxième Guerre mondiale. Certains voient dans les guerres des années 90 une répétition des blessures, disons, des restes de la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est vrai que c'est un des premiers sujets que nous allons aborder. C'est justement un retour critique sur la Deuxième Guerre mondiale et comment ça a été perçu, interprété ou non au niveau de, non seulement de l'establishment, mais de la société. Il y a une lecture critique des monuments, par exemple, qui ont été donc édifiés sous Tito et qui souvent maintenant sont systématiquement détruits. Donc la mémoire du passé pose un réel problème du passé lointain. Alors, c'est vrai que dans les Balkans, mais comme ailleurs, ça peut remonter très très loin. Et c'est vrai qu'il y a une approche souvent qui mythifie, qui fait devenir mythe. Et donc on peut faire dire au mythe à peu près n'importe quoi, parce que ça devient très, très, très narratif, littéraire, et on rentre presque dans la science-fiction. On crée un discours qui permet de légitimer une approche nationaliste du propre pays. Il y a un grand littéraire, sociologue, anthropologue, francophone par ailleurs aussi, qui parle très bien le français, que j'avais invité il y a très longtemps à Genève, Ivan Cholovic, qui a écrit régulièrement sur ces questions. Il vient de publier deux livres où il parle notamment, il fait l'histoire, l'anthropologie de la guzla, une sorte de guitare. Je crois que la culture a souvent été mal interprété, on l'a fait dévier de son cours de manière à alimenter une politique nationaliste. Donc il s'agit de démythifier l'histoire, ça c'est une première chose. Ensuite je dirais, c'est beaucoup plus délicat de repolitiser le rapport au passé. Donc il faut avoir, premier point, c'était une lecture critique et scientifique de l'histoire, et aussi naturellement de l'histoire récente. C'est clair que si on parle de repolitiser la lecture de l'histoire récente, ça devient très délicat. Pourquoi ? Il y a un côté émotionnel. Bien des personnes ont été touchées. Il y a quelqu'un dans la famille qui était à Srebrenica et qui n'est plus. Et ici, toute la société bosnienne, bosniaque en particulier, évidemment, musulmane surtout, s'est sentie concerné puisqu'il s'agissait d'un génocide. Donc il y a une émotion.
Il a été nommé ainsi par le tribunal international pour l'ex-Yougoslavie.
Tout à fait. C'est important, et donc cette blessure est encore ouverte, faut le dire très clairement, et il est difficile d'en discuter au-delà de l'émotion. Bien entendu, ça se fait, mais l'émotion prime. Le problème avec ceci, il est bien entendu légitime d'avoir des émotions à ce sujet, le contraire serait questionnable. Le problème, c'est si on a une approche uniquement de l'histoire qui est basée sur le fait de se sentir victime et de mettre en avant le fait que l'on soit victime. En fait, ça nous amène très vite à une lecture de l'histoire qui est complètement dépolitisée, ou bien, et ça c'est le cas en Bosnie, qui est récupérée politiquement par certains partis. Et naturellement, malheureusement, j'ajouterai de mon côté, le parti bosniaque SDA, Ou si le parti de l'actuel, un des trois présidents de la Bosnie-Herzégovine, Haris Silajic, joue avec le feu quand il fait de Srebrenica une question politicienne pour en tirer un certain nombre d'avantages. Je pourrais développer ici, mais c'est un sujet très, 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 très sensible en Bosnie. On peut peut-être juste sortir de la Bosnie pour revenir tout de suite en pensant à ce qui se passe en Espagne encore aujourd'hui sur la guerre d'Espagne. Qu'est-ce qu'il faut pour faire un retour sur l'histoire? Il faut du temps. C'est pratiquement seulement aujourd'hui que l'on a... Et l'émotion est là.
Hein. On l'a vu un peu partout avec l'Algérie aussi.
L'Algérie aussi, d'autres pays, l'Allemagne bien entendu. Mmh. Mais il y a une très forte émotivité. Hein, mais il faut du temps. Il faut ensuite un espace démocratiquement stable qui existe aujourd'hui en Espagne. Et puis il faut aussi, je dirais pas seulement une volonté, mais un courage politique. Quelque part, ces trois éléments sont totalement absents en Bosnie. Et je faisais l'exemple de Srebrenica, mais on peut étendre cette approche à d'autres pays. Repolitiser le rapport à l'histoire nécessite des instituts, ben ça doit se faire au niveau de la société et de l'État, donc ça implique les politiques et on regarde, je pourrais rentrer dans le détail encore ici, mais si on regarde l'évolution en Bosnie, on voit bien que malheureusement les autorités politiques des différents gouvernements n'ont jamais été capables d'entreprendre une démarche significative à ce niveau, malheureusement. Alors, est-ce que ça signifie qu'il faut tout simplement attendre, que c'est trop tôt? Bien entendu, non. Et depuis très longtemps, depuis pour moi 1995, je suis en contact et je soutiens des associations, mais aussi des intellectuels. Il y a le côté engagement, il y a le côté intellectuel, c'est comprendre, avoir une lecture critique des faits. Qui se penchent sur ces questions, agissent au niveau de la société civile, au niveau de l'État, interpellent l'État pour qu'il y ait la création d'une commission vérité et réconciliation, par exemple. Les fers de lance de cette initiative en Bosnie sont Jakob Finci, bien connu de Sarajevo, et Srđan Dizdarević du comité Helsinki des droits de l'homme. Il en est le président. Et donc, c'est vrai que ces différentes initiatives qui sont encore, comment dire, marginalisées, à terme sont destinées à avoir une influence plus importante, mais ce n'est pas le cas encore aujourd'hui. Et ce qu'il faut signaler ici, puisqu'il ne faut pas avoir une lecture seulement subrégionale, enfin limitée à un seul pays, tous les pays sont impliqués ici, la Serbie bien entendu, très fortement, c'est le moins qu'on puisse dire, mais aussi la Croatie. Ce qui est intéressant, et ces personnes viendront à ce colloque à Vienne, c'est que différents centres de documentation qui font pas seulement un travail de documentation, mais aussi un travail, je dirais, politique, de conscientisation. Le centre de Belgrade, le centre de Zagreb et le centre de Sarajevo collaborent ensemble, travaillent ensemble depuis de nombreuses années. Et c'est assez remarquable. Et c'est dans ce sens, bien entendu, qu'il faut aller. Et les différentes conférences que nous avons organisées ces dernières années avec ces partenaires ont précisément pour but de renforcer cette collaboration, de la soutenir, de la rendre plus visible aussi, pas seulement à l'extérieur hein, des pays, mais dans les pays concernés pour que leur poids politique devienne plus important. Alors ça, c'est un point qui me tient vraiment à cœur, c'est que ces personnes-là qui sont en quelque sorte des précurseurs de processus politiques qui devront par la suite se développer, eh bien, soient plus reconnues, mieux soutenus dans leur propre pays.
Vous parlez des précurseurs. Je pensais aux jeunes. Il y a une relève, j'imagine, dans les pays... Je vais les nommer ainsi parce que c'est plus simple, les pays de l'ex-Yougoslavie. Voilà, ces jeunes, ils ont une mémoire ou, disons, leur futur s'appuie sur cette mémoire qu'il faut régler.
Oui, alors c'est très très intéressant. Alors ici, je ne ferai pas mention d'études qui commencent à exister, mais plutôt à mon expérience personnelle. C'est assez effarant lorsque l'on rencontre certains jeunes. Je pense à des personnes que j'ai rencontrées en Bosnie, des personnalités fantastiques, ça c'est clair, mais de l'histoire et de l'histoire précise, hein, qui a fait quoi durant la guerre, et c'est il n'y a pas très longtemps, hein. Donc la guerre en Bosnie, c'est 1992-1995. Ils étaient jeunes adolescents à cette époque, parfois c'était des enfants. Eh bien, c'est presque le néant, hein. Donc c'est là qu'on voit qu'effectivement, il y a un besoin. Attention, je parle même parfois de personnes qui, donc de jeunes qui ont 30 ans, 35 ans, et qui sont dans des ONG soutenues par des pays occidentaux, et qui participent à plein de séminaires, etc., et qui sont censés savoir. Mais ils ont une connaissance minime, je dirais, du passé et des personnalités qui pourtant vivent toujours et qui ont eu un rôle important durant ces années de guerre. Et ce qui se passe parfois, c'est un souvenir très, très personnel. Alors là, on rentre dans l'intimité de la famille. Et est-ce que ça se passe souvent? C'est quelque chose de très difficile, mais j'étais une fois avec mon ami Svebor Dizdarević, qui est à Lyon, originaire de Sarajevo, bien entendu. On était à Sarajevo un dimanche après-midi chez un ami qui est de Sarajevo aussi, et qui était là avec ses enfants. Une discussion qui n'en finissait plus. On parlait de politique, naturellement. Et puis, le soir venant, on s'est rendu à l'intérieur de la maison, et puis à ce moment-là, le frère de cet ami arrive, et puis on discute de nouveau politique, etc. Discussion enflammée, passionnée. Et puis, tout à coup, mais sans qu'il y ait aucune invite, sans qu'il y ait aucune occasion, excuse qui aurait légitimé la chose, tout à coup, cette personne s'adresse à la fille de mon ami, et puis lui raconte ce que son père a fait durant la guerre de Bosnie. Et j'étais là avec mon ami Svebor, et on n'osait presque plus respirer. Il y avait une telle émotivité, il y avait quelque chose qui se passait, qui faisait sens. C'était un bout d'histoire, alors d'histoire familiale, c'est vrai, qui était transmis de manière à ce que l'enfant sache, et on était témoin de ce moment magique. C'était extraordinaire. Alors je rêve à ce que dans les différentes familles, eh bien, il y ait une transmission. Hein, du savoir, du roman familial qui se fasse. Je crains malheureusement que ce soit souvent pas le cas, mais je pense que ce serait une des meilleures façons pour faire avancer les choses dans le trajet individuel des différentes personnes. Mais là, on change de niveau, hein. Y a le niveau individuel, c'est vrai, et puis il y a un processus au niveau de la société qui est très difficile, qui se fait. Par exemple, j'étais en Republika Srpska, donc en Bosnie-Herzégovine, à Banja Luka, dans la partie dominée par les Serbes, si on veut, lorsqu'on a montré la vidéo des scorpions, donc qui montre clairement qu'une troupe paramilitaire de Belgrade, de Serbie, a commis des crimes de guerre, a participé au génocide de Srebrenica, les personnes étaient soulagées. Les personnes étaient soulagées. À ce moment, Carla Del Ponte était à Belgrade, ou entre Belgrade et Sarajevo. Elle était et je présentais officiellement le programme de la conférence de Genève, donc pour la Bosnie-Herzégovine, dans une conférence de presse. Tous les journalistes étaient là. Je m'attendais à être insulté, attaqué. Il y a juste un journaliste qui m'a fait noter « Ah tiens, Carla Del Ponte est là ». J'ai dit « Oui, Carla Del Ponte sera là, donc participera à cette conférence ». Et c'était la seule remarque que j'ai eue. Et dans la rue, j'ai discuté avec un certain nombre de personnes, comme ça, citoyen lambda, hein, comme on dit. Certaines personnes avec lesquelles j'ai discuté étaient soulagées. Donc je crois qu'il y a un grand besoin de récits au niveau de familial, je dirais, parce que qu'est-ce qui s'est passé dans la famille, c'est très lourd à porter, parfois. Et ensuite, naturellement, qu'est-ce qui s'est passé au niveau de l'État ? Et là, on est dans des processus plus complexes qui nécessitent une certaine maturité politique qui n'existe pas vraiment, pour le dire très clairement. Mais petit à petit, justement, là, les intellectuels ont un rôle à jouer, à pousser, à provoquer l'État à prendre ses responsabilités et je pense que dans les 10-20 années à venir, mais ça risque de prendre beaucoup plus de temps, il y aura un retour sur l'histoire qui permettra pas d'en finir, mais de vivre en paix, en quelque sorte, avec le passé de son pays, et puis d'être plus serein pour l'avenir. Et là, je crois que c'est des choses dont on réalise que, ma foi, elles prendront beaucoup de temps. Mais encore une fois, c'est pas pour autant qu'il serait juste de baisser les bras. Il y a un rôle d'aiguillon qui est joué par ces intellectuels, ces défenseurs des droits de l'homme qu'il faut soutenir parce qu'il peut s'inscrire dans un processus politique plus large. C'est ce qu'on espère.
Christophe Sauliot, je comprends bien que nous sommes dans une période de transition. Où doit aller notre regard maintenant ? Zagreb ?
Oui, alors on peut parler de Zagreb. Zagreb, c'est très important, évidemment. J'aimerais juste souligner, effectivement, on est dans une transition qui n'est maintenant plus guerrière, mais politique, et ça, c'est un fait capital. C'est un signe positif, bien entendu. C'est-à-dire qu'on est passé à la gestion politique. On se bat avec des mots. C'est déjà mieux. Et on arrive à résoudre un certain nombre de conflits. C'était le cas en Macédoine. Les conflits ont été résolus pacifiquement avec l'intervention de l'Union européenne comme médiateur. Au Monténégro aussi, il y a eu un divorce à l'amiable. Donc le divorce Monténégro-Serbie. Ensuite, la Serbie aussi, qui fait toujours valoir ses droits sur le Kosovo, laisse entendre très clairement qu'elle ne va pas avoir recours à la force. Donc on est dans un processus politique.
Il faut peut-être juste rappeler que le Kosovo a déclaré unilatéralement son indépendance en juillet dernier.
Voilà, et on imagine qu'à Belgrade, effectivement, il n'y a pas tout le monde qui est content.
Mais la Suisse l'a reconnu. Oui.
La Suisse l'a reconnu, oui. Tout à fait. Ensuite, et là c'est intéressant, c'est un deuxième point qui, où Zagreb a évolué plus rapidement que Belgrade. Les politiques, les acteurs d'orientation farouchement ethno-nationalistes, ont été virés quelque part ou ont évolué. Kostunica n'a pas été réélu. On peut prendre l'évolution de l'actuel président de la Croatie, Stjepan Mesić, qui était à l'origine dans le même parti que Tudjman et qui ensuite s'en est distancié, a créé son propre parti et d'orientation beaucoup plus démocratique et quelqu'un, un personnage et un profil, un parcours très très intéressant qui va bien dans une direction, c'est-à-dire qu'on s'éloigne d'une politique ethno-nationaliste criminelle, je dirais aussi, puisqu'impliquée dans des faits de guerre et dans des génocides, pour entrer dans des profils plus politiques, plus classiques. Et puis, troisième point très intéressant, c'est qu'on a naturellement, on est dans une période intermédiaire, donc on a des personnes qui sont dans la culture, qui sont dans les rédactions des différents quotidiens, qui sont en politique aussi, qui sont dans le business surtout, des personnes, bien ma foi, qui ont un pied dans les milieux gris ou mafieux ou criminels, et puis l'autre pied dans la société comme il faut en quelque sorte, et bien là, il faut faire le ménage. Et alors effectivement, c'est l'actualité. C'est l'éditeur du journal croate national à Zagreb qui a été éliminé par des milieux mafieux. C'est monsieur Pukanić. Et quelques semaines auparavant, c'était la fille d'un avocat notoire qui s'est fait assassiner aussi. Et aujourd'hui, pratiquement, Zagreb est en état de siège. Il y a des contrôles qui sont effectués par la police, des postes de bloc. On contrôle les identités et on réalise, enfin je dirais, qu'il faut faire le ménage. Donc c'est très intéressant sur ces deux derniers points. Donc d'un côté, on écarte du pouvoir les politiques qui ont un profil nationaliste excessif. En même temps, certains partis qui étaient d'orientation nationaliste, comme le parti de Milošević en Serbie, donc le Parti socialiste de Serbie, se recompose, se reprofile et entre en alliance, c'est le cas aujourd'hui donc en Serbie avec le Parti démocrate. Donc on a vraiment une recomposition de l'espace politique. Et puis le point que je viens d'évoquer, qui est très délicat évidemment, et qui fait que je reviens un peu en arrière sur ce que vous me posiez auparavant comme question, qui est-ce que vous rencontrez? C'est vrai qu'on a des méchants, pour faire vraiment très très simple, des méchants, on a des gentils, et puis on a beaucoup de gens qui sont au milieu. Et puis ces gens-là, eh bien, il y a trois solutions. Il y a le darwinisme en quelque sorte, c'est que ma foi, ces personnes arrivent aussi à un certain moment en fin de vie, ou bien on force le destin, et c'est des processus de nettoyage en quelque sorte, par les milieux mafieux eux-mêmes, ou bien c'est l'État qui prend ses responsabilités en Croatie, qui est sur le point pratiquement de faire partie de l'Union européenne, ce sera peut-être le cas déjà l'an prochain ou dans deux ans, eh bien on fait le nettoyage. Ceci dit, si on parle de milieu mafieux, il en existe par exemple aussi en Italie, qui est un pays membre de l'Union européenne, et voilà.
Christophe Sollio, vous mentionniez Carla Del Ponte, que vous connaissez bien. Notre ancien procureur du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, qui a publié au printemps dernier « La chasse, moi et les crimes de guerre », ouvrage qui n'a pas eu l'heure de plaire à notre DFAE, le Département fédéral des affaires étrangères. Vous avez lu ce livre, j'imagine, qui est paru donc pour l'instant en italien et qui devrait paraître en anglais en janvier.
Non, qui paraîtra en janvier. Enfin, j'ai l'édition anglaise, je ne l'ai pas prise avec moi, j'ai l'édition anglaise depuis deux mois sur mon pupitre. J'ai eu l'édition italienne, je l'ai obtenue en 30 secondes en téléphonant à l'éditeur. Et je ne m'explique pas qu'un certain nombre de journalistes en Suisse, par exemple, n'aient pas fait la même démarche, à part les journalistes du Temps,
par exemple. Vous
n'expliquez
pas, vous pensez que le DFAE a la main longue. Bon, on ne va pas
en parler. Non, on n'en est pas là. Mais alors bon, au niveau du département...
Quand même, le DFAE a demandé, on va juste rappeler rapidement les choses, à Mme Del Ponte de rentrer dans son ambassade en Argentine et surtout de ne pas s'exprimer sur ce bouquin. Qu'est-ce qu'il y a dans ce bouquin que la Suisse ne veut pas entendre ?
Bon, alors je crois qu'il y a eu une erreur de communication dramatique de la part du département fédéral des affaires étrangères. Alors il y a deux hypothèses. Soit elle avait lu le livre, ce qui est le cas, et aurait pu clarifier la situation, et parce que Carla Del Ponte a été attaquée. L'autre option aurait été, alors là ça devient plus dramatique, plus grave pour le département fédéral des affaires étrangères, c'est qu'ils ont effectivement ont lu le livre et qui ne l'ont pas compris. Mais alors là, ça devient vraiment gravissime. Tout simplement, il y a eu des fuites dans la presse balkanique, si on peut parler ainsi, donc dans les Balkans, en Serbie, en Croatie. Des extraits de ce livre ont été publiés, sortant complètement du contexte du livre, notamment un extrait où il est question de recherche concernant un trafic d'organes. Et en fait, si on place cet extrait dans son contexte, cette histoire est mentionnée par Carla Del Ponte uniquement pour mettre en évidence la difficulté de procéder à des recherches au Kosovo et en Albanie.
Mais ce qu'on lui reproche, c'est qu'il n'y a pas de preuves. Elle le donne en exemple.
Voilà. Oui, mais elle donne un exemple pour dire ben c'était difficile justement de trouver des preuves. Du reste, l'affaire a été classée. Alors, est-ce qu'au sur le fond, mais le fond du livre est autre chose, mais sur le fond de la question, l'enquête sera peut-être réouverte, on verra. Mais il fallait replacer cet aspect dans le chapitre. Et là, ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit que la plupart des journalistes, la plupart des politiques en Suisse, alors là j'étais consterné, et là je suis informé de sources sûres, n'ont tout simplement pas lu le livre. Et ils en ont fait un commentaire, une critique négative, descendant en flammes Carla Del Ponte. Pour une fois qu'on a quelqu'un qui a une envergure internationale et qui fait quelque chose de pas bien, mais de très bien, je veux dire, c'est un sacré autogol. Et puis alors, moi qui suis aussi professeur de français, aussi que d'orientation, c'est un cas d'école pour montrer des personnes haut placées qui ne prennent même pas le temps de lire un livre et qui le descendent en flammes. Donc ici, le livre... est déjà prêt en anglais, donc, et sortira en janvier à New York. Et ce sera intéressant de voir si les journalistes prennent le temps de lire le livre. Ils devraient avoir le temps, puisque les journalistes en question ont déjà reçu le livre ou peuvent le recevoir. Et puis, il sera aussi très intéressant de voir comment Berne réagit. En l'occurrence, c'est aussi un sacré autogol, parce que ça fait une certaine publicité. Le livre, au bout de 3 jours, est épuisé. Ils ont dû le retirer, donc procéder à un retirage à Milan.
On va peut-être juste résumer, notamment Carla Del Ponte, il dénonce le manque de volonté de la communauté internationale, et on sait qu'elle ne mâche pas ses mots pour arrêter les criminels de guerre. En fait, on lui a mis les bâtons dans les roues, donc ça a créé pas mal de difficultés. Vous reviendrez peut-être nous parler de ce livre quand il sortira en anglais et qu'on pourra quelques-uns le lire. On va signaler également, en un mot, parce que le temps passe, Christophe Sollio, que Florence Hartmann en 2003, donc c'est l'ancienne porte-parole et conseillère pour les Balkans de Carla Del Ponte, a publié un livre, Paix et châtiment, les guerres secrètes de la politique et de la justice internationale, où elle parle de cette bataille palpitante, mais bataille quand même, qu'est la justice internationale. Elle n'est pas tendre avec les responsabilités des grandes puissances non plus, elle a tous les ennuis du monde puisqu'on l'accuse d'outrage à la cour.
Oui, quelqu'un de fantastique,
Florence Hartmann,
qui connaît très 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 bien
ancienne correspondante du monde.
Les Balkans, et un livre dont il faut lire absolument. Et elle a eu le courage, effectivement, de publier un certain nombre de choses qu'elle n'aurait peut-être pas dû publier, mais qu'elle a très bien fait de publier. Le problème, ce n'est pas tant qu'elle ait publié, le problème, c'est que un certain nombre de personnes ne lisent pas. Voilà. Mais donc, c'est un livre qu'il faut lire.
Voilà. Et alors, à lire de vous, Christophe Sollio, alors, je l'ai dit, une pléiade d'articles que l'on trouve sur votre site internet ou à travers votre site internet. Et puis, vous écrivez beaucoup en anglais, malheureusement, pour nous, qui ne parlons pas toujours les langues. Regional Cooperation in Southeast Europe and Beyond, qui vient de paraître chez Nomos. Il y en a d'autres. En français quand même, en 2003, vous en avez écrit deux. L'après-guerre des Balkans aux éditions Carala. Et puis, la Bosnie et Herzégovine, enjeu de la transition. Je vous souhaite, Christophe Sollio, un bon colloque à partir de demain, donc sur le thème de la réconciliation et donc du passé et de l'avenir qui aura lieu à Vienne. Et je vous remercie d'être passé chez nous.
Merci à vous.
Le meilleur des mondes s'achève. Il vous était proposé par Annick Chuin avec la collaboration de Bastien Meucli, Nicole Corpato et à la documentation Jérôme Ruffini. Sur notre site internet, vous trouverez en lien des informations sur les activités de notre invité Christophe Sollio. Christophe Sollio qui dirige également depuis peu et avec Wolfgang Petritsch la collection Southeast Integration Perspectives aux éditions Nemos. Leur premier ouvrage sera consacré à la Serbie. Je vous donne rendez-vous comme d'habitude dimanche prochain à 11h sur Espace 2 et à 21h le même jour sur Radio Suisse Romande La Première. Nous recevrons Richard Labévière, journaliste engagé qui a passé par la télévision suisse romande et dont le dernier livre, coécrit avec le politologue François Tual et publié chez Perrin, s'intitule « La bataille du Grand Nord a commencé ». Il sera question de l'Arctique et de ses enjeux stratégiques, économiques et bien sûr écologiques. Thank you. Dans le meilleur des mondes, vous avez l'occasion d'entendre des personnalités de tous horizons durant 50 minutes. Des personnalités que vous pouvez écouter à nouveau sur notre site internet lemeilleurdesmondes.rsr.ch ou en commandant le CD de l'entretien qui vous intéresse au 026 323 24 24 ou en téléchargeant nos podcasts.
Le meilleur des mondes avec le quotidien Le Courrier, lecourrier.ch.
Dans l'histoire du christianisme, le IVe siècle joue un rôle particulier. En quelques générations, une religion persécutée devient en effet la religion officielle de l'Empire romain. Pour en savoir plus, les émissions religieuses de la Radio Suisse romande ont mené l'enquête.
Dans quel état est votre époux ?
Constantin a de plus en plus d'hallucinations, de visions suivies de comportements étranges.
Sacré Constantin, quand l'Empire devint chrétien. 20 émissions à découvrir dans À vue d'esprit, du 3 au 28 novembre à 16h30 sur Espace 2. Cette série fait également l'objet d'une édition en 3 CD en souscription sur le site www.religion-rsr.ch.
La vie
côté culture.
La vie côté culture.
Espace 2.
Bientôt midi. Après les informations, vous serez en compagnie de Daniel Rosis. Espace 2.
Les grands entretiens, c'est dans Le Meilleur des Mondes, le dimanche sur Espace 2 à 11h et à 21h sur la première.